Charles Dupont-White, Réflexion d'un optimiste, chapitre 8, d'une chimère qui est la démocratie, d'un organe excessif de cette chimère qui est le suffrage universel. Toute réflexion faite, c'est forcer l'hypothèse que de parler aujourd'hui d'une France sans religion. C'est prêter à notre situation et à ses problèmes un trait excessif, une donnée violente qui n'y est pas et qui ne peut pas y être. Il y a deux obstacles à cela. Non seulement la loi de continuité universelle qui nous gouverne, tout comme le reste de la création, mais les lois mêmes de notre nature, lesquelles impliquent un ressort surhumain, c'est-à-dire quelque chose par-delà nos instincts et notre raison pour nous conduire. Ainsi, la nouveauté qu'on signalait tout à l'heure en posant le problème politique, et comme l'aggravation de ce problème, cette nouveauté, dis-je, sous forme irreligieuse, n'a pas et ne peut avoir toutes les proportions qu'elle affecte. Elle a ce qu'il faut néanmoins pour faire à la France une situation inouïe parmi les peuples. Une nation peut-elle vivre et s'améliorer, confiant la souveraineté à tous les hommes également, et pratiquant l'indifférence en matière de religion, avec des maximes de progrès, avec un idéal de progrès purement laïque. Ce qui vous inquiète ici, c'est la médiocrité de cet idéal borné au bien-être, au ras de terre pour ainsi dire. Mais ceci n'est qu'une surface. Il faut voir ce qu'est le bien-être, pas moins qu'un préalable, qu'une condition nécessaire pour affranchir l'intelligence et lui rendre ses ailes. L'homme qui appartient au travail manuel, à l'effort musculaire, au souci du gagne-pain, qui dépend du travail à faire et du travail à trouver, de son salaire et de sa chasse au salaire, ce sauvage en un mot, porte en lui des facultés d'esprit qui sont comme si elles n'étaient pas, n'ayant ni le temps ni l'occasion de les dresser et de les exploiter. Par où la recherche du bien-être, dans la limite et l'humilité de ses apparences, est le moyen voulu pour une fin toute spirituelle. La première élévation d'esprit, l'astronomie, s'est faite parmi des peuples pasteurs, chaldéens, assyriens, non parce qu'ils passaient leur vie dans des plaines où rien ne leur masquait les astres, mais parce que ces plaines leur nourrissaient des troupeaux, un gibier domestique, une subsistance assurée, où ils trouvaient du loisir et de l'essor pour leur esprit, c'est-à-dire une liberté, une puissance de ce côté inconnue aux peuples chasseurs, lesquels vivent dans l'accablement perpétuel de leur chasse ou de leur digestion. Savoir si une société peut vivre sans religion, si la France est cette société, s'il y a des équivalents aux religions, c'est une série de problèmes qui touchent à la vie des sociétés. Aujourd'hui, le monde voit ces questions et les étudie à mesure qu'elles paraissent. Mais il ne faut pas croire que les questions vitales aient toujours été épargnées au monde et qu'elles y paraissent pour la première fois. Il faut le remarquer en passant, un problème analogue fut proposé aux hommes il y a 2000 ans. Le monde pouvait-il vivre sans esclaves? Le travail, en ce qu'il a d'humble et de répugnant, mais de nécessaire, pouvait-il être autre chose qu'un travail contraint et forcé? Or, le problème s'est résolu, à moins qu'il ne dure encore, sous le nom de socialisme. Toujours est-il que le monde a vécu, a cheminé, a grandi, même sous cette étreinte. Il s'agit maintenant de savoir s'il peut vivre en lâchant, en congédiant peu à peu les églises et les orthodoxies, comme il a congédié l'esclavage. Car il faut bien remarquer en tout ceci la gradation, la transition, le temps enfin, qui fait quelque chose aux affaires humaines. Les esclaves émancipés tout d'un coup eussent peut-être égorgé leur maître. Des hommes privés et vidés soudainement de toute religion s'égorgeraient peut-être entre eux. Mais les choses ne vont pas de ce train. À brebis tondues, Dieu mesure le vent. Cela veut dire qu'il accorde aux hommes termes et délais pour se renouveler mentalement. Que, par exemple, l'évidence actuelle en ce qui touche l'esclavage commença par être une simple lueur, parlant d'émancipation aux maîtres plutôt que d'insurrection aux esclaves. Enfin, que la Providence n'a pas seulement le procédé religieux pour agir sur l'âme humaine, et qu'elle y pénètre par des voies infinies, directes ou sinueuses, ne nous abandonnant jamais, ce qui est à considérer par-dessus tout, au simple effet de nos instincts ou de notre raison. Le père Huc raconte dans son voyage en Chine que certain empereur chinois adressa une proclamation à ses sujets, passant en revue toutes les religions et les déclarant toutes fausses. Nul empereur de nos jours et parmi nous ne procéderait ainsi. Cette menace n'est pas à nos portes. Toutefois, il reste ceci d'avéré que nous abordons une œuvre épineuse entre toutes, qui est la liberté politique, c'est-à-dire le gouvernement d'une société par elle-même, c'est-à-dire la répression de l'égoïsme par les égoïstes, que nous abordons cette difficulté avec le suffrage universel, c'est-à-dire avec la souveraineté des masses, où l'égoïsme a toutes les violences de l'appétit et toutes les infirmités, toutes les bornes de l'ignorance. Enfin, que nous accordons cette souveraineté aux masses dans le temps même où le frein religieux semble disparaître des âmes et des pouvoirs publics. On demande la permission de s'arrêter ici un instant pour sonder et pour montrer, comme on le voit, l'abîme qui semble nous attirer. Nous faisons à cette heure une chose inouïe, entrepreneurs, fondateurs, que nous sommes de démocratie. Inouïe est le mot. Je mets en fait l'histoire à la main que la démocratie n'a jamais existé, pas même en Grèce, et qu'elle n'existe encore nulle part, pas même aux États-Unis. Je m'explique. Jamais le peuple n'a été souverain quand il était peuple dans l'acception, dans la tradition européenne du mot, qui désigne des masses perdues d'ignorance et de misère, telles que les affecte l'injustice du passé, telles qu'une société meilleure les a laissées jusqu'à ce jour. Pour ce qui est de l'Antiquité, les érudits allemands vous diront que les 20 000 citoyens d'Athènes avaient 450 000 esclaves, que ce peuple d'Athènes a considéré non seulement ses esclaves et ses loisirs, mais ses artistes, ses orateurs, ses théâtres, ses fêtes, avaient de l'esprit et même du plus fin, du plus cultivé, que la marchande d'herbe en remonterait à Théophraste pour le beau langage, que Cléon, ce général tant moqué d'Aristophane, se faisait tuer après tout, que les emplois publics se tiraient au sort, mais à la charge de certaines preuves de capacité. Eren et Beuk sont fort explicites à cet égard. Quant aux États-Unis, je n'aperçois le peuple nulle part dans cette société issue de l'émigration d'une classe moyenne, où le moindre citoyen sait lire et lit, notez ce dernier point, où le salaire n'est pas seulement ce qui permet à l'ouvrier de vivre et de continuer sa race, définition classique parmi nous, mais définition de vétérinaire, où les castes n'existent pas, même en souvenir, dit Tocqueville, où la propriété est universelle comme le droit politique, où personne, ou pas une classe du moins, ne ressemble à cette peinture de la Bruyère. L'on voit certains animaux farouches, des mâles et des femelles, répandus dans la campagne, noirs et tout brûlés de soleil, attachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent, avec une vivacité invincible. Ils ont comme une voix articulée, et quand ils se lèvent sur leurs pieds, ils montrent une face humaine, et en effet, ils sont des hommes. Telle est la classe dont les descendants, dont les représentants, très nombreux encore, sont appelés à constituer le gouvernement parmi nous, et voudront peut-être l'exercer un jour. Cela est étrange, si étrange que cela, je le répète, n'a pas d'exemple dans le passé, ni d'analogie vivante que l'on sache. C'est mettre le pouvoir là où subsiste encore un reste d'esclavage, je veux dire la misère. Mais quel reste? Le gouvernement le plus éclairé, le plus concentré, le plus prestigieux ne serait pas de trop pour en avoir raison. Il échouerait peut-être à cette réparation du passé, ou plutôt à cette refonte de la condition humaine. Que sera-ce donc si la souveraineté appartient au nombre qui a tout ici pour être aveugle? Souffrance, colère, inculture des esprits, trouble des consciences. Il y aura des consciences, n'en doutez pas, pour traduire justice par bien public et bien public par bien populaire. De sorte que la question est celle-ci. Des hommes que leur nature physique a fait misérables pour la plupart, seront-ils assez grands par leur nature morale pour respecter le droit dans une minorité de riches? L'Évangile a dit « Vous aurez toujours des pauvres parmi vous ». Il n'a pas ajouté « Un jour viendra que les pauvres seront vos maîtres ». Dans un fort beau livre de M. Carreau, « Les jours d'épreuve », je trouve un chapitre intitulé « De la vraie et de la fausse démocratie ». Là-dessus, je veux faire une querelle à l'auteur, malgré le rare mérite de ses distinctions et de ses aperçus. La démocratie, lui dirais-je, n'est ni vraie ni fausse. Elle n'est pas. Qui dit démocratie commet une contradiction dans les termes, car ce mot veut dire en grec « gouvernement par le peuple », et « peuple » veut dire en français « la dernière classe faisant les dernières choses de la société ». D'où il suit que parler du gouvernement par le peuple, c'est faire une alliance de mots hurlante, une alliance de choses incompatibles. Autant nous proposer un bâton qui n'aurait pas deux bouts. La démocratie était quelque chose parmi les sociétés qui ont créé ce mot, quelque chose de bon ou de mauvais. Parmi nous, elle n'est pas et ne peut être. Elle constitue un non-sens, une pure chimère, car la démocratie est d'attribuer ce que la société compte de plus difficile parmi ses œuvres à ce qu'elle compte de plus incapable parmi ses membres, car elle a le plus grossier des organes, c'est-à-dire le suffrage universel, pour la plus haute des fonctions, c'est-à-dire pour le gouvernement. Quel sujet pour y rencontrer partout le vide et le néant? Je ne puis parler autrement de la démocratie, même organisée par le suffrage universel, car les organes ne font pas la vie. Les organes n'accomplissent leur fonction que moyennant une force préalable et vitale, laquelle, ici, est la capacité et fait absolument défaut à la démocratie. Chapitre 9. Si la restauration de l'aînesse et des corporations n'est pas un rêve. Là-dessus, quelques esprits se rejettent en arrière et tournent vers le passé des regards éperdus. Devant le présent ainsi conditionné, devant les menaces d'un tel avenir, le doute se fait un peu partout, sur la valeur des événements, des idées, des institutions, de toutes les voies, enfin, par où nous avons passé pour en venir là. Mais tout d'abord, j'ai un préjugé contre ce doute. Et voici ce que je dirais aux douleurs. Prenez bien garde. Vous allez me proposer des restaurations, des résurrections religieuses, féodales, monarchiques. Mais le passé est ce qui nous a conduits, ce qui tout au moins nous a laissé venir au point où nous voilà. Si le présent est vicieux, pourquoi reprendre le passé qui a fait le présent et contre le mal actuel, invoquer le principe du mal? En deux mots, l'Ancien Régime a fait 1789 et toute la société moderne, par impulsion ou par répulsion, notez ces deux points-ci, c'est-à-dire par la vertu d'un principe engendrant sa conséquence ou par le vice d'une conséquence détruisant son principe. Pouvez-vous changer cette logique des choses en les recommençant? Si les choses anciennes portaient et couvaient le mal moderne, pourquoi les rétablir? Si elles ont été simplement impuissantes à le prévenir et à l'intercepter, comment auraient-elles aujourd'hui, sur l'aggravation et le paroxysme de ce mal, la puissance qu'elles n'eurent pas sur ses premiers symptômes? Recourir au passé, c'est bientôt dit, mais auquel, je vous prie? Car le passé a bien des moments, bien des aspects. Et le XVIIe siècle n'a rien de commun avec le XIIIe, ni même le règne de Louis XIV avec le règne de Louis XIII. Voulez-vous le pouvoir absolu et central du monarque, ou le gouvernement épars, disséminé aux mains des seigneurs, des États et des bonnes villes? Voulez-vous de l'inquisition ou de la tolérance, du gallican ou de l'ultramontain, des réalistes ou des nominaux, l'enseignement des jésuites ou celui des oratoriens, la prépondérance des parlements ou celle du Conseil d'État? Car il y a de tout dans l'Ancien Régime, même du droit, un droit qui avait sans doute forme de privilège, considérant toutefois et respecté, racheté même par la royauté comme celui de l'abbé de Saint-Victor, seigneur justicier dans Paris au XVIe siècle, comme celui du comte de Thoiras, gouverneur de l'île de Ré à titre d'office. Richelieu, tout Richelieu qu'il était, faisant le siège de La Rochelle, et pour les besoins du siège, ne put moins faire que d'exproprier cet officier. Le passé, avec d'autres façons, était tout aussi destructif, tout aussi novateur que les temps modernes. Vous n'y trouverez nulle part ce mérite de stabilité qui vous charme par antithèse. Pourquoi vous arrêter quand il marchait? Pourquoi refaire ce qu'il a détruit? Et si vous entendez le relever en son dernier état, celui de 88, pourquoi cet état plutôt que tout autre? Toujours variable et changeant, mauvais ou impuissant en dernier lieu, tel nous apparaît le passé. La conclusion, c'est qu'il faut s'arranger de ce qui est, y chercher une assiette tolérable et prêter main forte aux décrets supérieurs, naturels ou divins, qui gouvernent le monde. En certains cas, c'est partie gagnée que de réussir à vivre. Remarquez bien que je ne discute pas la valeur respective des différentes choses, présentes ou passées, qui prétendent régner. Je ne traite pas les unes de ténèbres et de vieilleries, je n'érige pas les autres en progrès. Laissant de côté ce contentieux, je constate et je considère seulement ces nouveautés qui surviennent dans le monde avec l'effet de le transfigurer par un mouvement qui s'accélère de plus en plus à mesure que le monde prend connaissance de ses destinées, de ses fins et ajoute aux causes divines sa propre collaboration, la science et la force qu'il acquiert. Si le monde se transforme par voie de progrès ou par voie de déchéance, c'est ce que je n'examine pas en ce moment. Mais à coup sûr, il se transforme. Changer est la loi du monde. Les limites de ce changement, c'est une autre loi qu'on essaiera de démêler, ne pouvant tout dire à la fois. En attendant, qu'est-ce que le monde ferait des choses d'autrefois? Pourquoi y trouverait-il mieux son compte que dans les choses du présent, préparées et acquises comme elles sont? Vous traitez de chimère les choses de l'avenir, encore latentes et prématurées. Or, les choses d'autrefois, aussi bien que les choses de l'avenir, nous disent qu'on vienne également, quoique différemment. Comment, dirais-je au droit d'aînesse, vous êtes le passé et vous songez à en être? La prétention est prodigieuse. De quel droit, s'il vous plaît? Et pourquoi faire? Ah, dites-vous, j'ai souffert mort et martyr, fraude et violence. J'ai été surpris, étranglé, quand j'étais encore plein de jours et de bienfaits. Je redemande la vie, comme on demande justice et réparation. Voilà mon droit. J'effacerai les choses nouvelles et désordonnées qui règnent de nos jours. Je vous ferai une base, une dignité, un horizon. Voilà l'œuvre qui vient me chercher dans les ténèbres où je suis descendu et qui me convie à renaître. C'est facile à dire. Mais alors, pourquoi n'avez-vous pas disputé la place aux nouveautés scélérates? Il fallait résister quand elles faisaient mine de naître. Et que vous aviez encore la possession d'État, ses grands restes de vigueur et de prestige. C'est à ce moment que l'effort vous eût bien servi. Mais aujourd'hui, n'ayant pas eu la force de durer, comment auriez-vous celle de reparaître quand il s'agit de soulever une tombe qui est fermée et scellée sur vous par le poids, par l'épanouissement d'une société nouvelle? Que vous soyez supérieur au présent, c'est une question. En tout cas, vous ne convenez pas au présent. Vous pouvez dire du présent tout le mal que vous voudrez et lui chercher partout des querelles ou des remèdes. Seulement deux choses vous sont défendues. Restaurer le passé, improviser l'avenir. Cela revient à dire que vous ne disposez pas de la vie, que si créer et ressusciter appartiennent à quelqu'un, ce n'est pas à vous et à vos œuvres. Chapitre 10. Droit respectif de la tradition et de l'innovation. Mais l'œuvre des révolutions, fréquente parmi nous, apporte et justifie en ce débat une insistance nouvelle parmi les apologistes du passé. Il est clair, disent-ils, que le passé aura tort un jour ou l'autre. Mais ce jour est-il venu? N'est-il pas arrivé quelquefois à nos révolutions d'y aller inconsidérément, d'abréger les délais, de dévorer le temps dans des circonstances où le temps est un droit? Il reste toujours une question. Il reste même deux questions pour ne rien omettre de ce que l'on voit. Premièrement, il faut voir si ce qui a été détruit dans le passé était chose de fond ou chose de forme. Dans le premier cas, destruction absurde et injuste. Car si le monde doit se transformer, il doit garder intact et inviolable le fond même qui le constitue et le fait vivre. Par exemple, l'égoïsme, si nous parlons du cœur humain. L'atmosphère, si nous parlons du monde extérieur. Ceci est une double limite aux transformations. Considérez en effet que le monde moral et le monde extérieur, la nature de l'homme et la condition de l'homme sont choses parallèles, harmoniques, faites l'une pour l'autre, chacune étant le milieu de l'autre, de sorte que l'une changerait en vain si l'autre ne changeait pas. Supposez la terre plus fertile et l'homme toujours égoïste comme il l'est. Les fruits nouveaux et surabondants de la terre demeureront exclusivement aux propriétaires ou aux capitalistes qui les en a tirés. Que si, au contraire, l'égoïsme se change en dévouement sans que les facultés nourricières du sol se soient accrues, il y aura sans doute une nouvelle répartition des biens, mais dont l'unique effet sera la misère, ou tout au moins la médiocrité universelle. En second lieu, il faut voir si le passé, en certains traits relatifs à la forme seulement, laquelle est passagère, n'a point passé trop tôt. S'il n'a pas été effacé de la vie sociale, trop brusquement, trop complètement surtout. Cela serait grave, car si l'élément ancien doit disparaître, il doit toujours se trouver en proportion supérieure à l'élément nouveau. C'est ainsi que la chose s'est toujours passée dans la Constitution anglaise, selon la remarque de Macaulay. Ceci vous enseigne une grande vérité, c'est que les sociétés humaines vivent surtout de tradition, parce que la tradition est à deux fins, également nécessaire pour jouir du présent et pour le changer. Elle représente dans le règne humain cette loi de continuité qui gouverne l'univers, que nous subissons en partie, que nous pouvons modifier en partie. Mais cette modification, celle même que nous appelons progrès, a besoin de s'appuyer sur une base solide, qui est la persistance et presque l'identité des choses, alors même que nous y touchons. Continuité dans la nature, tradition dans les sociétés, habitude parmi les individus. Tel est le train des choses. Cela n'empêche pas que les choses n'aient à changer quelquefois sous la main de l'homme. Mais avant tout, elles doivent durer assez longtemps pour que les êtres dont elles sont le milieu en prennent l'habitude, la possession, la notion surtout, qui est nécessaire pour en jouir avec sécurité et pour les changer avec efficacité. De là, une certaine prééminence du passé, laquelle peut fonder certaines réclamations. Encore le droit d'aînesse et ses doléances. J'ai péri trop tôt, j'ai succombé quand j'étais encore riche de vie et de perfection. Quand les couvents se multipliaient à l'usage des cadets et des filles que je déshérite. C'est ce que M. de Sorbière, un intendant plein d'esprit, a fort bien expliqué dans un de ses rapports. Ayant été victime d'un pur attentat, d'une expérience faite comme une vivisection, pourquoi ne reparaîtrais-je pas ainsi qu'ont reparu les autels et les prêtres proscrit comme moi, indûment, prématurément. Pourquoi ne serais-je pas réparé comme la confiscation des nobles ? Ce langage est spécieux mais peu convaincant. J'honore le droit d'aînesse, mais pas à l'égal des religions et du besoin religieux. Ce revenant devrait y regarder de plus près en ce qui touche la restauration du culte et des congrégations religieuses, lesquelles ont repris place parmi nous, non comme pouvoir public, mais comme service public, c'est-à-dire pour nous et non pour eux. Que le prêtre et le temple soient défrayés par l'État, que des ordres religieux demandent et obtiennent la personnalité civile. Cela rentre dans les termes du droit commun. Cela fait partie du communisme qui caractérise notre société. Se figure-t-on une société ayant, comme la nôtre, des subventions pour l'opéra et qui n'en aurait pas pour la religion? Quant aux droits d'aînesse reparaissant parmi nous, il serait une pure dissonance. Il ferait exception et contradiction à tout. Rien ne saurait masquer son caractère de privilège dans un pays où tout respire le droit commun, dans un temps où toute chose, toute personne, toute localité sont au régime de l'égalité, de l'uniformité, de la concurrence. Remarquez, je vous prie, ce cas spécial des localités. Vous voulez mettre une différence entre le droit de l'aîné et celui des cadets? Eh bien, cela est tout bonnement impossible. Dans un pays qui ne put mettre une différence entre le droit de la ville de Lyon et le droit du village de 300 âmes, un jour qu'il délibérait sur la loi des attributions municipales. La chose, la différence locale fut entrevue, proposée, pas même discutée. Gloire au niveau, mort aux exceptions. Rien que la règle, une règle à tout briser, à tout courber. Il faut s'expliquer à fond avec le droit d'aînesse. Vous avez contre vous, lui dirais-je, la justice qui est ici l'égalité. Pourquoi traiter inégalement des enfants qui portent également le fardeau de la vie et dont aucun n'a demandé à naître? L'aînesse avait jadis une valeur, peut-être une nécessité féodale. Elle a peut-être, de nos jours, une valeur politique, économique et sociale, attestée par l'exemple anglais. Mais cela importe peu à l'esprit français, lequel est sensible surtout aux considérations de justice absolue et de vérité théorique. Si vous voulez en juger, rappelez-vous seulement que l'aînesse était en quelque sorte le droit commun de l'Ancien Régime, que toute famille anoblie pouvait faire et faisait un aîné, que l'aînesse était alors aussi fréquente que les lettres ou les usurpations de noblesse. Telle était la loi, telles étaient les mœurs de l'Ancien Régime, jusqu'au jour où certaines lois du 8 avril 91 proclama le partage égal des successions. Or, ce n'est pas obéi que fut cette loi, mais acclamée. Les mœurs furent touchées et illuminées du coup. Elles changèrent comme avait changé la loi, et dépassèrent même la loi, en n'usant pas d'une certaine latitude laissée aux pères de famille, sous le nom de quotité disponible, pour faire quelque chose comme un aîné. Il y a des statistiques pour peser cela. Sur 1500 millions de valeurs transmises annuellement par voie d'héritage, 3 millions seulement sont frappés de préciputes et de majorats, où l'on voit un exemple frappant de la puissance qui appartient aux lois quand, par hasard, elles parlent du haut de la conscience et descendent au fond des cœurs. Tout comme il y a une secte aujourd'hui pour rétablir le droit d'aînesse, il y en avait une naguère pour abolir l'héritage, pour appeler à la succession d'un homme, non ses enfants ou ses légataires, mais l'État. C'était le saint-simonisme, les deux sectes se valent. Il y a des cas où le passé est un rêve aussi chimérique que les projets d'avenir les plus hasardeux. On peut se demander lequel vaut mieux pour une institution, d'être répudié et congédié par les faits ou de n'en avoir pas subi les preuves. Sectaires du passé ou sectaires de l'avenir, tous se repaissent du néant qui a détruit leurs rêves ou qui les garde par-devers lui. Les uns se tournent vers le passé, qui est mort. Les autres s'adressent à l'avenir, qui n'éprouve aucun besoin de naître et de se faire juger, également fautifs et impuissants, les uns comme les autres. Tels sont les principaux traits de ce débat entre le présent et le passé. Il y a de bonnes raisons, ça et là, mais il n'y en a de péremptoire nulle part. Il est aisé de dire que le monde change, mais il n'en est pas moins très difficile de savoir où porter la main pour exécuter cette loi, parce que le monde change par voie de transformation, ni plus ni moins, ce qui impose au changement des façons et surtout des limites réelles, mais nullement précises. Il s'agit en effet de reconnaître d'une part le fond des choses, qui est immuable, d'autre part la forme des choses, qui seule peut changer, et de ne pas prendre l'un pour l'autre. Ensuite, le monde change, mais par une évolution lente et graduelle, où le passé doit prévaloir, où la tradition doit garder sa prépondérance en vertu de nécessités qui font l'homme, qui font l'harmonie de l'homme avec son milieu, et qui seules permettent le progrès, comme on l'expliquait tout à l'heure. De là, plus d'une difficulté sous les pas d'une société qui aspire au changement. Les choses que vous touchez à cette fin ont beau jeu pour se défendre. Prenez garde, nous dira l'une, je ne suis pas de celles qu'on élimine. On ne me touche pas, ce serait un viol. J'appartiens au fond des choses. Je suis identique au règne humain. Je ne suis pas une surface, un détail, une forme. Laissez-moi en paix. Respect aux essences. J'ai ma racine dans les choses, lesquelles se dresseront et retomberont sur vous si vous tentez l'extirpation. Tel autre vous dira, je dois disparaître, j'en conviens, mais je n'ai pas fini de vivre, mon heure n'est pas venue. Le monde, s'il me laisse aller, si vous le privez de ma présence, n'aura plus son aplomb. Sa ration voulue de choses anciennes et nécessaires. Quelle dispute ! Une des plus riches auxquelles le monde ait été livré, par une providence jalouse d'entretenir l'aiguisement des esprits. Qui dira le moment précis où la chose ancienne est incapable de vivre, où la chose nouvelle est digne de naître? Seulement, il ne faut pas parler de précision. Les choses font mille façons pour disparaître et se renouveler. Une bonne histoire, dont on ne se doute guère, est celle du système décimal, décrété dès 93. Qui entre à vue d'œil dans nos mœurs, mais qui n'a pas encore complètement prévalu. Point de difficulté s'il s'agit de choses disparues et remplacées. C'en est fait de ces choses. Elles sont détruites à jamais, légitimement, éternellement, ayant contre elles le droit et la vie de la chose nouvelle qui apparut sur leur ruine. Ici, la véritable illustration est celle des Jurandes et des Maîtrises, non seulement abolies, mais supplantées. Le cas politique n'est pas si clair, parce qu'il s'agit en pareil cas de créer ou de détruire des pouvoirs. Détruire est ce qu'on reproche aux révolutions. Mais la nôtre, celle au moins de 89, a bien plus édifié que détruit. En créant parmi nous le droit commun et la concurrence, elle a répandu plus de vie dans la société. Elle a appelé plus de personnes et de classes à l'activité, à la lumière, à l'effort libre et récompensé. Si le progrès est quelque chose et vaut quelque chose, c'est comme accroissement de vie. Nous avons montré ailleurs que cela ne va pas sans un accroissement parallèle de l'État. Qu'à plus de vie, il faut plus de règles et d'organes. Que la règle est l'organe de la vie sociale, c'est l'État. Ici, nous avons à rechercher seulement si de nouvelles choses dans la société ne veulent pas de nouveaux pouvoirs dans la cité. Si les forces d'autrefois ne sont pas aujourd'hui des faiblesses, des impropriétés, des impuissances. Adapter les pouvoirs à l'état social, les institutions aux mœurs, c'est l'œuvre des réformes et le moyen d'échapper aux révolutions. Pour plus de précision, cette œuvre consiste surtout à créer des pouvoirs nouveaux pour servir et contenir les forces nouvelles qui ont paru dans la société. S'il s'agissait d'un individu ou d'une espèce, vous conviendriez que de nouvelles fonctions veulent des organes nouveaux. À l'égard de la société, la règle est la même. Elle s'exécute en changeant les pouvoirs publics, qui sont les organes du juste, du vrai et de l'utile, tout comme à changer la notion de ces choses, et dans le sens où elle a besoin désormais d'être pratiquée et défendue. Les pouvoirs et les classes d'autrefois ont pour eux la tradition. Mais la tradition ne vaut que pour les choses qui lui sont contemporaines. Elle est sans application aux choses nouvelles et postérieures. Je m'explique. Voici deux classes, qu'on appelle le noble et le prêtre, où vivent des traditions d'honneur, de charité, de science. Mais l'honneur, tel que les nobles l'entendent, c'est l'honneur militaire. Or, cette tradition ne leur dira rien sur les applications de l'honneur, soit à la politique, soit à l'industrie, choses inconnues à l'époque où leur tradition prenait naissance. Vous verrez parmi les nobles pas mal de félons politiques ou industriels. Inutile de dire que la science du clergé ne s'accommodera pas de la science moderne et voudra toujours l'ignorer. Je ne sais pas même si sa charité cherchera le pauvre sous la forme que l'industrie donne à la pauvreté et par le genre d'assistance qui s'applique à cette forme. Quant au magistrat, l'unique conséquence des traditions parlementaires, c'est qu'il sera un juge intègre entre les individus. Jusque-là, de grands souvenirs le soutiennent, de grandes ombres lui apparaissent. Il sent palpiter en lui la caste qui fit l'hôpital, les Harlay, les Molé. Mais sera-t-il incorruptible entre les partis et le gouvernement, entre les citoyens et le pouvoir ? Dans ce contentieux totalement inconnu de l'Ancien Régime? Vous voyez comme la tradition a ses limites. Si des choses nouvelles ont apparu parmi nous, il ne faut pas croire que les forces anciennes puissent gouverner ces choses. Elles n'y suffiraient pas. Inutile de les rappeler pour ce service qu'elles feraient mal. Et de les rappeler, dis-je, sous prétexte du bon service qu'elles ont fait autrefois, et même qu'elles font encore aujourd'hui, mais ailleurs. Voulez-vous prendre sur le fait cette inaptitude des anciennes forces parmi les nouveautés modernes? Rien n'est plus facile, et les exemples abondent. Vous démêlez tout d'abord que l'élément nobiliaire ne doit pas figurer seul dans la formation d'un sédan, que l'élément judiciaire, héritier des anciens parlements, ne doit pas être seul à prononcer sur les délits politiques. Enfin, que le clergé ne doit pas être seul appelé à l'enseignement et à l'assistance publique. La raison en est que la liberté politique, que la juridiction politique, que l'enseignement primaire, que la science moderne, que le paupérisme ouvrier sont des choses nouvelles et que sur ces choses, la tradition est muette. La tradition qui est l'âme des grands corps auxquels on vient de faire allusion. Avoir été est une raison d'être. La tradition est un titre. Tant que rien ne change, que rien ne bouge à côté des choses traditionnelles. Mais si quelque changement survient, la chose traditionnelle ne peut se passer d'harmonie. Elle ne peut s'en passer parce qu'elle a des mœurs, des lois et des pouvoirs publics qui s'engendrent ou se déterminent les uns les autres. Il est bien entendu qu'un rapport constant doit exister entre les institutions et les idées d'un peuple. Ceci peut passer pour un truisme et un lieu commun, qui toutefois demande explication. Pour que les idées aient un effet impérieux sur les institutions, il faut qu'elles aient fait les mœurs de la société, son régime économique et normalement la concentration ou la diffusion de la richesse, la grande ou la petite propriété. Il appartient aux idées, quand elles possèdent à ce point la société, de prendre possession des pouvoirs publics et de les accommoder, de les refaire s'il le faut à l'image de la société, c'est-à-dire de concentrer ou de répandre la souveraineté. Vous avez là le spectacle d'un changement dans la société qui change le gouvernement. Maintenant, prenons la chose par l'autre bout. Supposons un changement qui touche à la souveraineté, qui la déplace, qui l'attribue à un monarque, à certaines classes ou à tous les hommes indistinctement. Vous verrez se produire un changement analogue dans la propriété. Il y eut un moment au XVIIe siècle où Louis XIV était tellement souverain qu'il se crut seul propriétaire du sol français. Quelques siècles auparavant, sous le régime féodal, on disait « nulle terre sans seigneur ». De nos jours, le suffrage universel arrivera peut-être à une prétention, à une théorie analogue. Le fait est qu'il y a une attraction naturelle entre propriété et souveraineté. En général, les propriétaires sont les souverains. Ils ont acquis la souveraineté par la propriété. Agamemnon, dit Thucydide, était le plus riche des Grecs. Que si les souverains ne sont pas propriétaires, il est naturel qu'ils le deviennent par la grâce et par le bénéfice de leur souveraineté. Comment les hommes n'useraient-ils pas de la plus grande force connue qui est le gouvernement pour acquérir le plus grand des biens qui est la propriété? Et ceci est le plus fameux exemple que je sache d'un lien entre les idées et les institutions. Un changement dans les unes entraîne un changement dans les autres. Seulement, il faut que le changement d'idées porte sur la propriété et que le changement d'institution porte sur la souveraineté. Harrington avait entrevu cela confusément dès le XVIIe siècle et avec une fausse application à l'Angleterre. Comme le seul Anglais lui paraissait divisé entre beaucoup de mains, il l'était réellement à cette époque, en vertu de certaines lois de Henri VII, Harrington concluait de là à la République, estimant qu'il devait y avoir autant de souverains que de propriétaires. Cette déduction était prématurée. elle serait plus spacieuse aujourd'hui parmi nous, en présence du suffrage universel. C'est ainsi que les choses du passé deviennent étrangères et insupportables au présent. Le monde se transforme, soit du côté des mœurs, soit du côté des pouvoirs publics, soit du côté des autorités sociales, entendant par ce dernier mot les classes et les existences qui ont pour elles un poids de richesse, de moralité ou d'esprit. Or, un de ces changements ne peut avoir lieu sans tirer l'autre. Quand le tiers-État était tout, économiquement, intellectuellement, administrativement, selon le fameux mot de Sieyès, comment saurait-il demeurer rien politiquement? De sorte que les choses anciennes doivent disparaître tout entières, quoique graduellement, sans pour cela que le monde cesse d'être lui-même en ses traits constitutifs. Tout comme ce couteau dont la lame avait changé, dont le manche avait changé, qui demeurait un couteau néanmoins, parce qu'il avait toujours un manche et une lame. Dans ce petit exemple, comme dans les plus grands, vous saisissez une loi universelle, qui est la persistance des forces et des relations entre les forces. Cette loi des démonstrations cosmiques, qu'on serait bien embarrassé de donner ici ou même ailleurs. Vous pouvez voir la chose confusément expliquée dans un livre intitulé « Les premiers principes », qui est le livre fameux d'un grand esprit anglais, M. Herbert Spencer. D'un autre côté, je reconnais, encore une fois, que la continuité dans les choses humaines est nécessaire au déploiement des plus hautes qualités de l'homme, c'est-à-dire de la prévoyance et de la combinaison. Nous ne pourrions préparer l'avenir, même pour changer et pour améliorer le présent, si nous ne pouvions pas prévoir l'avenir avec certitude, si le lendemain ne devait pas ressembler à la veille. Nous n'avons toute notre puissance que dans cette donnée de la continuité, de la tradition, qui fournit à notre pensée un point de départ et d'appui. Si l'homme, dans son œuvre de progrès, n'avait pas la substance du passé qu'il façonne et améliore, il ne ferait pas œuvre de progrès, il serait créateur. Il passerait Dieu, du coup. Il s'agit donc de garder concurremment les deux grandes lois qui nous gouvernent, continuité et changement, tradition et progrès. Vous violez l'ordre universel si vous attentez à cet équilibre pour arrêter ou pour précipiter l'œuvre du temps. Arrière les sectes et les égoïsmes qui ne vivent que d'une idée, qui n'usent que d'un procédé. L'homme ne peut entrer dans les voies de la Providence qu'en imitant la variété dont il a le spectacle, par l'équité dont il a le devoir. Car équité veut dire ici pluralité des vues, intelligence d'autrui et de ses droits, compromis, gradation, enfin, une manière d'être en toute chose, qui, dans la chose religieuse, a prévalu sous le nom de tolérance. Il faut que les classes et les intérêts apprennent à se supporter, à s'équilibrer. Les religions l'ont bien appris.